genèveactive.ch.
Oscar Gomez-Mata, suis à la messe, reviens de suite, commence d'abord par une obade donnée par un guitariste et les comédiens, et ensuite on pénètre dans la salle où vous évoquez directement un tsunami, un tremblement qui aurait eu lieu à Genève il y a un certain temps, donc probablement un moment fictif, mais qui semble, bien sûr, puisque nous sommes à l'ombre d'une sculpture qui pourrait évoquer des minarets, il semblerait que le tsunami soit plutôt politique.
Absolument. Disons que le fait qu'on évoque dans la pièce est un vrai fait historique. Donc c'est un tsunami qui s'est produit dans le lac Léman en l'an 563. Et j'avais envie de mettre en relation cette idée qu'on peut avoir de « il n'y a rien qui se passe par rapport à ce qu'on vit ici, par rapport au lac et la possibilité de que tout bascule ». De que la nature en fait, mais c'est vraiment une métaphore où il y a tout qui peut basculer et après cette histoire, ces petits contes qu'on décline entre vrai et faux sur ce tsunami qui s'est produit, effectivement on arrive à cette idée qu'on dit dans la scène à la fin, la transformation c'est ce qui... On ne l'aime pas, mais c'est ce qui a fait progresser les choses. On n'aime pas la transformation, mais c'est la seule possibilité de progresser. Ça, c'est une idée politique. Et alors, on doit accepter une sorte de changement continu. Et c'est ça qui nous amène ailleurs, à une possibilité, on va dire, des consciences différentes.
Tout au fil de la pièce, justement, la conscience du spectateur est alertée sur des événements, puisque à un certain moment, quand vous présentez comme un talk show, on voit ces personnages qui ont recouvert un voile et qui font aussi des allusions à la politique française. Donc vous êtes basé sur des éléments, sur des faits récents.
Absolument. Pour moi, c'est très important de mélanger, on va dire, un côté métaphysique qui a à voir avec la conscience des choses et de ce qui est la réalité, de ce qui est ce qu'on voit, avec, on va dire, de faits ou des événements auxquels on peut s'attacher directement. Et c'est, un détournant ces événements, ces talk shows... qu'on met en scène en le détournant complètement, qu'on peut avoir un autre regard sur ce qui est vraiment ce qu'on nous donne en nourriture tous les jours à travers la télévision, à travers et qu'on accepte. C'est la nourriture qu'on accepte et c'est cette grande machine qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir qui demande cette nourriture vivante que nous sommes, la machine, ce système dans lequel nous tous participons demande de la nourriture et donc cette idée de mettre ces événements auxquels on peut se rattacher directement, c'est pour voir que nous sommes concernés. Le détourner, c'est pour voir un peu la face cachée de cette machine. Donc elle est détournée pas seulement en parodie mais on va dire en satire outrageuse pour que quelque part on arrive à voir la quantité, si je peux me permettre, de merde qu'on nous donne à manger et comment nous l'acceptons et comment nous devenons aussi une nourriture vivante.
Pour présenter cette mainmise du pouvoir à travers par exemple la télévision, vous avez aussi votre propre machine, celle qu'on avait aussi déjà vue dans Kéros, c'est-à-dire d'amener des références locales qui permettent au public, aux spectateurs de s'identifier.
Il y a deux choses. L'une, c'est le fait théâtral de mettre quelque chose qu'on reconnaît directement, donc on n'a pas de distance par rapport à ce fait, parce qu'on le reconnaît, on l'a vu, on parle du forum de sang, on parle des choses, de l'école polytechnique de Lausanne, on parle des choses, du Rolex Center, des choses auxquelles on peut se rattacher, avec lesquelles on n'a pas de distance. Et puis, on fait exploser, on va dire, le rire, vraiment une sorte de rire dans cette scène très bas, justement pour créer une ouverture quelque part qui nous dépasse. Donc c'est vraiment d'essayer de mettre deux pôles opposés, un, le rire qui nous dépasse malgré nous, à travers dans un système, on va dire, comique de satire, et puis le fait que ce rire est rattaché à des choses qu'on peut reconnaître vraiment. On ne nous parle pas de choses lointaines, on nous parle des choses qu'on reconnaît, qu'on a vues dans les journaux, des choses dont on a parlé, etc. Et donc c'est essayer de créer ce déchirement entre le plaisir du rire et puis le fait concret des choses qu'on voit. Et c'est dans cette espèce de contradiction que j'essaye de créer un espace pour que le public toujours se place, trouve sa place, qui est pour moi le plus important dans tous ces discours sur la réalité, réalité politique, réalité métaphysique. C'est que le plus important, c'est que le public trouve sa place, son interprétation, prennent position. Et ça, c'est un peu quelque chose de constant dans mes spectacles. C'est cette idée de ramener, de pousser le public pour qu'il lui-même définisse la réalité de l'objet théâtral qu'il voit.
Et comment s'est déroulé le processus de création, puisque semblerait qu'il y ait une analogie avec la construction d'émissions télévisées, on alterne entre le sérieux, le rire, qui sont des séquences très précises.
Pour ce qui a été la construction du spectacle, on est parti sur ces thèmes de l'âme, de la vibration, et comme d'habitude, moi j'essaye de le relier à notre réalité. Donc on a fait un voyage effectivement entre nous-mêmes, ce que nous sommes, ce qu'ils sont aussi les comédiens. C'est toujours un travail à partir de comment eux ils se placent par rapport au thème. Et donc pour moi c'était clair à nouveau qu'il y aurait un voyage comme dans Kairos entre le très concret de notre réalité et pouvoir lier ça à une pensée métaphysique différente de ce qui est la réalité et comment. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a cette alternance entre des scènes, on va dire, très planantes, très visuelles, avec des discours sur la vibration et sur les choses, et des choses très concrètes où on met vraiment les mains dans la pâte. Et on va loin même dans les propos du langage. Vraiment, c'est ça descend très bas. Et pour moi, c'était important que ça descende très bas pour, à la fin, nous poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans cette société où on essayerait d'être unis, on essayerait de penser que des changements sont possibles, d'avoir de l'espoir, et finalement, cette grande machine nous force à descendre nos pantalons, et puis voilà, quoi, et accepter tout, ou presque tout, sans se poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos vies? Qu'est-ce qu'on fait avec notre implication, notre responsabilité sociale, où on va. Moi, je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire d'une manière innocente à la bonté, au bienfait, ou est-ce que je dois soupçonner qu'il y a toujours quelque chose caché? Ça, c'est quelque chose que je me pose et je ne trouve pas des solutions. Ce spectacle est un spectacle contradictoire. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de révolte? Quelle est la révolte possible? Si on abandonne complètement, on va où? On va vers le suicide. Et si on va vers le suicide et on l'accepte, est-ce que c'est encore le suicide, une possibilité poétique pour récupérer l'innocence? La pièce finit mal.
Créer la révolte, justement, Votre pièce alterne entre des moments poétiques et des moments qui descendent très bas. Cette façon de provoquer la révolte, est-ce que vous pensez qu'elle pose la question, à quel degré faut-il voir que l'on descende si bas ?
J'aimerais qu'il y ait une révolte. J'aimerais qu'il y ait quelque chose qui part des tripes. Je ne suis pas sûr que ça soit possible. Et je ne suis pas sûr que ça soit la solution. J'insiste beaucoup dans cette pièce sur le fait que c'est une pièce contradictoire. Elle est tout le temps sur des pôles opposés, sur des idées opposées. Et celle-là, c'est encore une. Je pense qu'il faudrait descendre très bas pour ressentir quelque chose. Et en même temps, je me dis que c'est impossible. Donc, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est mettre le très bas et l'inspiration mystique en jeu. Et me dire qu'est-ce qu'il y a entre ces côtés bas, sales, violents, outrageux, et cette inspiration mystique de réconciliation. Et je ne trouve pas la solution. C'est pour ça que je crois la pièce, elle laisse, à ce que je vois, beaucoup d'impressions, beaucoup de questions. Elle est très abrupte. Elle est très. Ça, c'est un mur à la fin.
Elle est brutale aussi.
Oui. Disons, elle ne laisse pas. À un moment du processus, parce que vous me questionnez sur ça, je me suis rendu compte que la pièce devait finir mal. Et avec Anton Reicha, avec lequel on a coécrit la pièce, j'ai dit « Anton, cette pièce, elle doit finir mal. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on parle de tout ça et que, comme souvent c'est le cas dans mes pièces, il y a une lueur d'espoir à la fin. » Je crois que ça doit finir mal, parce que je crois qu'il faut que les gens, à la fin de la pièce, arrivent devant un mur. Qu'est-ce qu'on fait alors, après, quand on arrive devant un mur ? C'est une autre question.
Quelle place avez-vous laissé à l'improvisation, puisqu'il paraît que la pièce change beaucoup d'un jour à l'autre ?
Bon. Oui, il y a des choses qui ne changent pas, mais notamment, il y a cette scène que vous avez vue sur les talk-shows télévisés, cette sorte de parodie, celle-là, elle change beaucoup parce que c'est une scène qui doit dépasser le public. Elle doit, ça doit être une sorte de tsunami qu'on peut pas complètement assimiler, qui nous passe par-dessus. L'énergie de la pièce, elle est construite comme ça, de la scène, pardon. Alors la scène, elle est très écrite. Hein. Elle est écrite à la ligne. Donc on est parti de l'improvisation, on l'a laissé flotter pendant un moment, on l'a complètement écrite. Et puis j'ai dit à Nicolas, bon maintenant, il faut dépasser la scène même. Donc maintenant il faut aller loin. Et donc entre ce que vous avez vu dimanche hein, et ce que j'ai vu hier, il y a une grande différence dans cette scène. Elle arrive au même point, on va dire. On va dire qu'elle arrive au même point, mais elle est vraiment très différente. Et là, concrètement, dans cette scène, on s'est mis d'accord avec le comédien qu'il faudrait chaque fois qu'il y ait une place, il faut que le public ressente une sorte de truc extraordinaire qui est en train de se créer sur place et où on ne peut pas maîtriser même la scène. On ne peut pas la maîtriser, c'est pour ça que je parle des tsunamis. On ne peut pas la maîtriser. Moi-même, quand j'ai vu la scène dimanche, je me dis, il devient fou. C'est pas possible. Il va où ? Elle nous dépasse complètement. Après, chaque jour, je fais un point avec les comédiens, on tire des conclusions, voilà quoi. Et on change le parcours. Pas le parcours, on change de comment arriver au point fort. Mais celle-là, elle change beaucoup.
Est-ce que le fait qu'il y ait eu des réactions très contrastées de la part du public, certains qui partent peu d'ailleurs, mais certains qui partent choqués, et d'autres qui sont absolument pliés de rire, est-ce que pour vous c'est une preuve que ça fonctionne finalement ?
Oui, parce que comme j'ai dit, c'est une pièce sur le doute, c'est une pièce très honnête. Je crois que j'ai fait, dans ça je suis très satisfait, ce que je devais faire. On parle de ça, honnêteté, perplexité, on parle du doute, de la vibration et du doute. La vie deviendrait la société ou la cohabitation entre la vibration et le doute. C'est la dernière phrase de la pièce. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'il y a cette réaction, ces réactions contrastées du public. Je le vois tous les soirs, il y a des gens qui pleurent à la fin. Je l'ai vu encore hier. Il y a des gens qui sont en larmes. Et puis, j'ai évidemment des gens qui, et dans les critiques, on va dire dans les professionnels et dans le public, qui disent que je devrais faire des spectacles comme je faisais avant. C'est tout à fait normal. Je pense que ça pourrait pas être d'une autre manière avec cette pièce. Donc, est-ce que c'est un objectif? Non, je me suis pas posé ça comme un objectif de diviser le public, mais je comprends que le public soit divisé et que ça pose beaucoup. C'est ce que je me rends compte avec cette pièce, c'est que les gens parlent beaucoup après ce qu'on me dit. Ils parlent beaucoup de la pièce, ils se posent beaucoup de questions. Encore avant hier, on a eu une classe des jeunes et puis on m'a téléphoné hier pour me dire est-ce que tu peux venir en classe vendredi. Parce que le jeune, il ne s'arrête pas de parler de cette pièce. Ça leur a posé beaucoup de questions. Je trouve pas mal. Je trouve bien parce que je me les pose les questions. C'est vraiment une pièce, comme j'ai dit, qui parle du doute. Et donc c'est normal que ça crée des doutes.
Vous posez aussi la question de l'intérêt de l'action du divertissement par rapport à la réflexion, qui semble être le sujet principal aussi.
Oui, c'est le premier texte, ou un des premiers textes, hein. Effectivement. Est-ce qu'on peut allier plaisir et réflexion? Moi, Oscar Gomez, ce que je dis, c'est oui. Ce que je vois quand je pose mes pièces, parce que je pars toujours dans le processus et toujours dans ce qui reste, il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir. Le théâtre est un jeu, et le jeu, c'est du plaisir. Et je pose beaucoup de questions, de réflexions. Alors ça, dans mon travail, ça a été quelque chose depuis des années qui des gens ont compris et que des gens ont beaucoup du mal à accepter qu'on peut réfléchir, qu'on peut pointer du doigt avec le plaisir, avec le rire, avec le fait de... Ouais, avec le divertissement. J'ai toujours dit que mes spectacles étaient des spectacles très populaires parce que ce que je voyais, ça correspondait à des gens qui n'étaient pas forcément des professionnels, à des professionnels aussi, mais un tout public. Donc je crois qu'on peut réfléchir tout en trouvant du plaisir. Et puis que l'autre côté, l'autre visage, c'est celui qui pense que... qu'on ne peut pas réfléchir et avoir du plaisir, hein. Que pour réfléchir, il faut garder la bouche fermée. C'est ce qu'on dit dans la pièce. Et les bouches fermées, c'est les personnes qui détiennent le pouvoir. Et donc, c'est à nouveau entre ces deux visages, entre le plaisir et la réflexion, et donc l'innocence et la bouche fermée qui implique le non-plaisir, le pouvoir et les soupçons.
Il y a un lieu de divertissement qui est le lieu favori de la majeure partie de la population, c'est la télévision. Avec cette pièce, vous montrez que vous avez parfaitement maîtrisé le processus, le style et le format de la télévision qui pourrait permettre sous couvert de divertissement de faire passer d'autres idées. Est-ce que à côté du théâtre, la télévision serait un outil qui vous conviendrait?
Moi, je ne regarde pas la télévision. Ça fait des années que je ne la regarde pas. Non. J'ai travaillé pour la télévision. Je regardais la télévision, comme je pense tout le monde. Et ça fait quelques années où j'ai décidé que je regardais plus la télévision parce que c'était pas bon pour ma santé. Comme j'ai décidé de vendre ma voiture parce que c'était pas bon pour moi et que j'ai pas, voilà. Et la télévision, c'est de ne pas regarder la télévision, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. C'est pas pour autant que je vais pas la mettre en jeu. Donc je garde des souvenirs de ce qui était la télévision et puis des fois je regarde un talk show, je regarde Rouquier et puis je continue à m'énerver et à penser qu'on nous donne de la merde à travers la télévision. Donc il me suffit 5 minutes pour me rendre compte que ça n'a pas changé. Je trouve que c'est une perte de temps et que c'est encore cette nourriture que tout le monde avale. Moi, je pense que finalement, moi, je suis un idéaliste et que je pense, je suis un clown, voilà. Je suis un clown, comme on dit, les bouches fermées, les clowns dans le spectacle. Je suis un clown. Je crois, au fond de moi, je crois à l'innocence et je crois à un équilibre. Et la télévision, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écologique dans le sens d'équilibre, d'équilibrer les gens, ça déséquilibre. Et moi, j'ai pris l'option de ne pas regarder la télévision. Je suis beaucoup plus heureux, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas du tout intéressé. Mais je comprends que les gens la regardent. Moi, je dis à tout le monde, moi, ça fait beaucoup de temps que je ne la regarde pas. Je suis tellement heureux d'arriver chez moi et de ne pas brancher le poste. Voilà.
Vous avez parlé des jeunes, vous allez dans les classes pour leur expliquer. Comment percevez-vous ces jeunes face à un spectacle que l'on pourrait imaginer difficile pour des jeunes?
Ce que j'ai vu il y a deux jours, c'est qu'ils étaient étonnamment très dedans, mais vraiment très dedans. C'est peut-être le dispositif qui crée ça, où ils se regardaient beaucoup la réaction des autres. Ils sont arrivés très dispersés, ce qui est normal, on est jeunes entre 16 et 18, et puis c'était complètement dedans. C'était très beau de voir comment, et puis après, comme on m'a dit qu'ils se posent le lendemain beaucoup de questions, et on me sollicite pour que je vienne parler avec eux, je trouve que ça leur a provoqué beaucoup de choses. Je trouve que c'est important pour moi de m'expliquer devant eux. Parce que je l'avais déjà dit aux responsables de la classe, hein, qu'à la fin, il y a tout un discours sur les suicides et qu'il fallait bien tenir compte de ça, parce que comme image, pour quelqu'un comme moi de 47 ans, c'est pas la même chose que pour un jeune de 17. Hein. Il n'a pas la même distance sur ça. Et donc, je vais demain m'expliquer devant eux et attendre ces questions, mais c'était vraiment dedans à fond. Quoi.
Merci Oscar Gomez Matin.
Merci.
Genève Active.ch